troisième et dernier débat ce soir dans C'est à voir. Question importante, les salariés français sont-ils malades du management? Alors bien sûr, nous posons cette question en raison des 32 suicides en 2 ans à France Télécom, mais pas seulement. On estime que chaque année en France, 500 à 600 personnes se suicident pour des raisons professionnelles. Pour en débattre ce soir, nous allons être rejoints dans un instant par le numéro 2 de France Télécom, Stéphane Richard, et par le journaliste Paul Moreira. Mais d'abord, regardons ensemble ce reportage. Nous avons enquêté à France Télécom, mais aussi dans d'autres entreprises françaises pour comprendre comment les salariés pouvaient être acculés au suicide et comment le management pouvait en être responsable. Halte au stress, Geneviève Roger, Gérard Lemoine.
On vérifie que nos épaules ne sont pas contractées. Vérifiez que votre tête est dans l'alignement de la colonne.
Ils tentent d'évacuer toutes leurs tensions.
Est-ce qu'il y a des tensions dans le dos? Est-ce qu'il y a des tensions dans les épaules?
Ils veulent réapprendre à bien travailler avec les autres. Ils sont cadres dirigeants.
On l'autorise.
La leçon du jour, traquer la moindre violence dans les relations de travail.
Il n'y a pas d'effort musculaire à faire.
Dès qu'on est en mode défiance, on est dans ces comportements qu'on appelle violents, c'est-à-dire on est agressif, c'est la lutte. On est dans l'évitement et les non-dits, c'est la fuite. Ou on est dans le repli sur soi et l'abattement. Donc là, c'est dépréciation, dévalorisation, perte de confiance.
Tenter de mettre fin à ces jours, c'est une violence qu'on fait à soi. Tous ces modes-là sont le signe que des choses n'ont pas pu être dites, donc pas entendues.
Se sentir déconsidéré, pas écouté. Des sentiments que ces salariés de France Télécom connaissent, jusqu'au drame.
On a eu les deux premiers suicides, des personnes qui étaient donc un à la documentation, l'autre à la logistique, Patrick et Philippe. Et donc ces personnes-là ont appris que leur poste était supprimé. Et voilà, ils se sont, un s'est jeté sous le train et l'autre s'est pendu malheureusement. Ça a été vraiment pour nous très difficile.
Tous les jours, pour se rendre à la cantine, ils passent devant ce bâtiment aujourd'hui fermé. C'est là que travaillaient Patrick et Philippe. Françoise était ce qu'on appelle un vendeur leader. Et puis, un jour de 2008, c'est le déclassement brutal.
Du jour où le service a fermé, donc j'ai été relayée chez Orange. Et là, franchement, je pense que je vais avoir du mal à parler parce que c'est beaucoup d'émotions pour moi. On m'a coupé les ailes, on m'a coupé les pattes. Du jour au lendemain, j'ai plus été rien du tout. C'est-à-dire que j'ai été une simple vendeuse. Ben, voilà, les larmes, j'en parle encore avec beaucoup d'émotion, puisque ben, les larmes me sont venues et j'étais obligée de quitter mon travail en pleine journée. J'ai fait le choix de partir pour pas en arriver à ce que... Je pense pas que je me serais suicidée. Mais bon, par contre, j'ai craqué. On m'a cassée, je dirais. Brisée.
Déclassée. Déplacée des collaborateurs. Yves l'a vécu en tant que responsable d'équipe et il a accepté de nous raconter comment il a été formé pour ça par France Télécom. Document à l'appui, voici comment on fait dire oui à ceux qui pensent non.
On sait très bien, en leur annonçant la nouvelle, que cette motivation va être complètement cassée. Donc ce qu'il faut, c'est faire toute la boucle, en passant par les différents stades de refus, et pour finir par de la résignation, de l'acceptation, et puis en espérant que derrière, il y ait à nouveau de la motivation. Et puis,
une expérience difficile à vivre avec ses collaborateurs.
Déjà, on les connaît bien. Il y en a avec qui on a créé, on a tissé des liens. Et certains des collaborateurs que je connais depuis une dizaine d'années, donc que j'apprécie. Donc, c'est pas toujours évident ce genre de discours à leur tenir.
Aujourd'hui, ces méthodes sont remises en cause. Ailleurs, d'autres tentent de nouvelles formes de management, sans stress. Retour à notre entreprise du début.
Qu'est-ce que vous avez derrière la tête quand vous rencontrez quelqu'un?
Adepte de la relaxation de ses cadres dirigeants.
Mettons.
Nous sommes à Lyon. SQLI emploie 2000 personnes dans le e-business. L'ambiance détendue semble propice à la création. La philosophie du patron, c'est d'instaurer un autre rapport au pouvoir.
On attache très peu d'importance à la position hiérarchique, au sens galon. Par contre, on attache beaucoup d'importance à l'autorité de compétence. C'est-à-dire qu'une personne va être compétente sur un sujet. Et quand elle est compétente sur un sujet, c'est elle qui a autorité. Et peu importe, je dirais, la position hiérarchique des personnes qui vont travailler avec elle sur ce sujet-là.
Alors voilà pour nos rappels.
Une hiérarchie que l'on gomme. Une communication qualifiée de non-violente, enseignée par cette formatrice et ses jeux de rôle.
Chez le client X,
j'ai pas l'impression que tu arrives à faire effectivement les tâches qu'on s'était réparties.
À gauche, Philippe fait part de son insatisfaction à Olivier. Mais il ne doit pas le juger ni le blesser.
Stop, parce qu'en fait, là, il vient de te donner des éléments que tu accuses par réception de ce qu'il vient de te dire. Il va pas t'entendre. Ouais. Tu vois, il risque de rester fermé.
Donc si je comprends bien, en fait,
Il s'agit de perdre l'habitude d'imposer.
Quelle qualité d'engagement de la personne on va avoir si on lui impose quelque chose? On risque de susciter des résistances, qui sont la réaction naturelle à quelque chose qui nous est imposé. Souvent, et on entend par violence quelque chose qui fait pression à un moment sur la liberté de l'autre. Donc, un manager va avoir beaucoup plus d'intérêt à vraiment comprendre quelles sont les motivations de son collaborateur. Dans ce cas-là, le collaborateur, il va être dans une relation où il a de la confiance, il agit en envoyant le sens, et il n'agit pas parce qu'il est obligé de le faire.
Cela fait maintenant plus d'un an que cette entreprise pratique la communication non violente. Et selon ses dirigeants, ça marche.
Aujourd'hui, là, on a déployé la communication non violente. Aujourd'hui, les résultats sont de plus de 10% supérieurs aux entités où on ne l'a pas déployé, on va dire un an après.
Une entreprise jeune, spécialiste de l'Internet, qui brise les modes de management traditionnels, c'est déjà pionnier. Mais un charcutier industriel dans la Sarthe, qui milite depuis plus de 20 ans pour un management non violent, c'est quand même plus inattendu. Il faut dire que Christian Prunier, ici avec son fils Léonard, a une conception particulière de son rôle de patron.
Le plus grand besoin de chaque individu, c'est au fond de contribuer au bien-être des autres. Moi, j'en suis convaincu. Il y a seulement certaines personnes qui n'ont pas l'ouverture du cœur et qui sont incapables d'être, je dirais même, en sympathie avec elles-mêmes. Donc du coup, ça fait des gens difficile, agressif, mais au fond de chacun, je pense qu'il y a vraiment le besoin de contribuer au bien-être des autres.
Le bien-être pour mieux travailler ensemble. Les 130 salariés de Christian Prunier suivent des stages de communication non violente. Pour Arlette, chef d'équipe, les bienfaits sont évidents.
Avant, personne ne voulait travailler avec moi parce que, soi-disant, j'étais très dure, j'avais une parole très dure et que je menais les gens un peu à la dure. Et quand j'ai ouvert ce service, j'ai eu vraiment la surprise de voir qu'il y avait différentes personnes qui voulaient venir avec moi travailler. Si je n'avais pas eu la chance d'avoir toutes ces formations-là, je n'aurais pas changé comme j'ai changé et je n'aurais peut-être pas été aussi proche de mes collaborateurs.
Moi, je pense que c'est très bien.
De management sociocratique sur lequel on est en train de mettre en place.
Très attentive, Arlette, quand elle participe à ces réunions mensuelles où tout l'encadrement de la production est représenté.
Toi, Damien, comment tu vis ça?
C'est bien voir ça tout au cours de l'année. Et puis,
ici, chacun prend part aux décisions.
Et rigoureux.
Les décisions doivent se prendre collectivement. C'est un patron, il décide. Si le patron décide tout seul dans son coin, ça ne peut pas marcher. Et là, c'est vraiment pour ça qu'on fait dans l'entreprise beaucoup de réunions, entre autres. Pour que nos décisions soient prises collectivement et que chacun y adhère et en comprenne le sens.
Le père s'apprête à laisser les rênes de l'entreprise, probablement à l'un de ses trois fils. Christian Prunier a des convictions si fortes qu'il les a même consignées dans un livre. Il veut maintenant consacrer sa vie à promouvoir un management plus humain.
Alors, les salariés français sont-ils malades du management? Pour en débattre avec Valérie Pécresse, nous recevons ce soir Stéphane Richard et Paul Morera. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Stéphane Richard, vous êtes le numéro 2 de France Télécom. Vous venez d'arriver dans le groupe début septembre et vous êtes pressenti pour devenir le président du groupe en remplacement de Didier Lombard. Paul Morera, vous êtes journaliste, grand reporter, et vous venez de co-signer ce livre, « Travailler à en mourir quand le monde de l'entreprise mène au suicide, ça le mérite ». d'être clair. J'en reviens au reportage que nous venons de voir ensemble. Et si tous les patrons peuvent rêver, hein, était comme ce patron d'une PME de la Sarthe, là, comme Christian Prunier, qui veut promouvoir, je le cite, un management plus humain. Ça irait sans doute mieux, on se suiciderait sans doute moins sur le lieu du travail ou pour des raisons professionnelles. Stéphane Richard, ce serait idéal. Ce serait peut-être le monde des bisounours, mais...
Oui, pour France Télécom, le défi, c'est la taille, la complexité de l'organisation. On a
c'est, plus dur quand c'est plus dur quand c'est plus gros.
Je pense que c'est plus dur. Néanmoins, j'ai regardé ce reportage personnellement avec beaucoup d'intérêt. Je pense qu'il y a des expériences dont on pourrait utilement s'inspirer chez France Télécom. Et je crois que ça montre aussi une chose qui est très importante à mes yeux, c'est que le management, ça s'apprend aussi. Et je ne suis pas certain que le système éducatif français, j'ai eu la chance d'avoir Madame Pécresse ici, présente ce soir, et je prends l'exemple des grandes écoles par exemple, soit vraiment complètement adapté à ce défi qu'est la science du management.
Mais juste avant, je vous entends, Didier Lombard, lui, il n'a pas bien appris. Alors
écoutez, ce n'est pas le sujet. Je crois que Didier Lombard, avec moi-même, avons pris, je pense, la mesure de la crise qui a secoué l'entreprise. On est tous les deux résolus de façon totalement unie, chacun dans sa partie, à vraiment prendre ce problème à bras-le-corps et à trouver des solutions.
Je vais être méchant quand même, parce qu'on va réécouter le PDG de France Télécom quand même, Didier Lombard, c'était en septembre. Voilà ce qu'il déclarait alors qu'il venait d'être convoqué par Xavier Darcos. Écoutez.
Il faut marquer un point d'arrêt à cette mode du suicide qui évidemment choque tout le monde.
Bon...
C'était un mot malheureux, il s'en est expliqué. Je crois qu'il était lui-même très ému ce jour-là. Mais pour en revenir à mon point sur la question du management, je crois qu'en France, on a peut-être un peu trop une conception du management qui est basée sur une expertise technique ou sur l'ancienneté ou sur ce type de critères. Je crois que le management, ça s'apprend encore une fois. On le voit très bien dans ce reportage. Il y a beaucoup de formations.
Des formations.
La communication non violente, c'est un sujet très intéressant.
Si on ne m'avait pas formé, eh bien,
absolument.
J'aurais pas su.
Et je pense que c'est un défi pour nous chez France Télécom que de remettre dans le projet de l'entreprise cette composante de formation des managers.
On va en parler. Valérie Pécresse, vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur. Vous êtes diplômée de l'ENA, mais aussi HEC. Est-ce qu'à HEC, justement, et dans ces grandes écoles commerciales, on n'apprend pas que les objectifs, les ratios, la réussite individuelle, et pas assez les ressources humaines, pas assez la gestion du capital humain. C'est un reproche qui est souvent fait à ces écoles.
J'ai fait HEC il y a plus de 20 ans.
Oui,
alors
je
pense qu'il ne faut quand même pas me demander de juger leur formation par rapport à mon expérience d'il y a 20 ans, parce que ce serait, à mon avis, c'est quand même des choses qui évoluent.
Mais est-ce que vous partagez cette analyse ?
Non, mais je pense que ça va même beaucoup plus profondément que ce que dit Stéphane Richard. Avec Xavier Bertrand, en réalité, on a identifié ce sujet du stress au travail, on l'avait identifié bien avant. Bien avant les drames humains de France Télécom. Parce qu'il y a d'autres entreprises dans lesquelles des situations individuelles de stress très fort existent, sans pour autant d'ailleurs arriver jusqu'au suicide.
Mais pourquoi vous n'avez pas mis en place un plan plus tôt?
On l'a fait avec Xavier Bertrand quand il était ministre du Travail. On a demandé à William Dapp, qui est un professeur de médecine, qui était l'ancien directeur général de la Santé, de travailler pour nous proposer des formations spécifiques sur ces questions de stress au travail, pour pouvoir les prévenir, pour pouvoir les éviter.
C'était quand, Madame la Ministre ?
C'était quand Xavier Bertrand était ministre, donc c'était en 2008 ou en 2000. Enfin, c'était la première année dans
mais
la première année.
Ça n'a pas donné lieu à un plan d'action.
Si. Alors, on est en train de travailler sur les contenus des formations, mais je voudrais répondre plus précisément. Je pense qu'aujourd'hui, dans les formations universitaires, tous les élèves de l'université ont vocation à être cadres un jour. Et il n'y a aucune formation de gestion des ressources humaines, d'une manière générale. Et par ailleurs, quand il y a des formations de gestion des ressources humaines, c'est une autre question, est-ce qu'on forme à la gestion des hommes ? Est-ce qu'on va vraiment jusqu'à l'individualisation de sa gestion des ressources humaines ?
La réponse est plutôt non.
La réponse est plutôt non. Donc on ne peut pas faire de la gestion des ressources humaines uniquement avec des techniques. Mais il faut mettre aussi des compétences de gestion des ressources humaines dans des formations qui n'en ont absolument pas. Des formations d'ingénieurs, des formations de cadres, des masters. Et donc il faut qu'on y réfléchisse.
Puisqu'on sait qu'en France notamment, les ingénieurs arrivent justement à des postes de direction.
Il faut qu'on y réfléchisse. Mais les relations humaines... Enfin, moi je me bats beaucoup en ce moment dans l'université pour dire qu'à l'université, on ne doit pas apprendre que des savoirs... Mais on doit aussi avoir des compétences.
On va en parler des solutions, de ce qu'il faudrait faire en France pour que ça change. Mais restons quand même sur le constat du problème. Paul Morera, dans votre livre, vous dénoncez, les mots sont forts. Une entreprise française régie par la peur, par une logique guerrière. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Moi, ça fait donc quelques années que je m'intéresse à la question du travail en France. Et je suis absolument sidéré par le climat de terreur que je rencontre. C'est-à-dire que je n'arrive pas à avoir un salarié on the record. Tout le monde est anonyme. Il faut savoir que
les
déclarations qui parlent ouvertement en leur nom, s'ils ne sont pas délégués syndicaux, ils sont terrorisés. Il faut savoir que la déclaration des droits de l'homme, elle s'arrête au seuil des entreprises françaises. À partir du moment où vous passez le seuil de la porte, les gens ont peur. Peur de perdre leur boulot, peur d'être ostracisé. Aujourd'hui, il y a énormément de mécanismes qui font que les gens se retrouvent fragilisés. Enfin, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, malheureusement, après plusieurs dizaines de suicides dans votre entreprise. Les gens se retrouvent face à souvent à un choix qui est soit, en gros, je l'ouvre et je me fais virer et je me retrouve au chômage et je vais pas me faire réembaucher de sitôt, soit j'encaisse, j'intériorise, je suis même pas capable d'en parler à mes camarades de travail.
Paul, quel est le responsable,
et je m'isole.
Quel est le responsable de ce climat ?
Alors, j'entends les solutions et je trouve qu'elles sont bien, il faut réfléchir à tout et j'ai vu le sujet, je trouve ça très bien, mais c'est vrai que quand on prend un peu de recul, j'ai tendance à dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du global qui s'est passé. Il faut qu'on se pose la question exactement comme on s'est posé la question pour la crise financière. Et c'est marrant d'ailleurs que les deux crises soient concomitantes. C'est qu'à un moment donné, dans l'entreprise, on s'est dit, c'est l'action qui prime, l'action boursière qui prime. Et à partir de ce moment-là, on a comprimé les effectifs. On a imprimé une certaine culture guerrière, c'est vrai, une certaine culture dans le travail qui a fait que les maillons faibles craquaient. Donc moi, je pense que c'est une réflexion de fond qui ne va pas s'arrêter à respirer du ventre et à se faire des petites réunions. On va boire du thé ensemble.
Est-ce que vous êtes d'accord sur ce constat que fait Paul Moreira ?
Il n'y a pas que l'action qui amène une entreprise, qui met l'entreprise sous contrainte. Si je prends le cas de France Télécom, France Télécom est une des entreprises françaises, probablement, qui a connu la mutation la plus violente dans ces dernières années. C'est une mutation technologique. Il y a 15 ans, on parlait pratiquement pas de mobile et pas du tout d'Internet. C'est une mutation concurrentielle. On était un monopole. Aujourd'hui, dans tous nos métiers, il y a une concurrence acharnée. On a donc placé ce corps social, qui avait été pour l'essentiel recruté dans les années 70 avec une mission de service public, dans un environnement totalement différent. Donc vous voyez que si on prend cet exemple, ce n'est pas seulement la logique des marchés financiers qui explique le fait que l'entreprise était mise sous tension.
C'est une immense transformation. Alors, c'est une immense transformation qui a fallu accompagner.
Mais c'est une logique supplémentaire qui est celle de la privatisation, le passage du service public à la culture du privé.
Je ne crois pas, en l'occurrence, que la privatisation ait amené une différence fondamentale par rapport au problème. D'ailleurs,
c'est pas ce que dit le syndicat.
Si on prend, sans doute, mais si on prend un indicateur qui est celui du taux de suicide dans l'entreprise, on n'a pas voulu communiquer sur ces statistiques parce que pour nous, un seul suicide est un échec insupportable pour l'entreprise. Mais il n'y a pas plus de suicides aujourd'hui avec une entreprise dans laquelle l'État a encore 27% du capital qu'il y a 15 ans lorsque c'était une administration. Et d'ailleurs, regardez le nombre de suicides qu'il y a dans les grands services publics, la police par exemple ou d'autres. Donc c'est pas un problème de. Je ne crois pas que ce soit un problème de statut. En revanche, là vous avez raison, c'est quand vous dites qu'il y a de la peur, quand vous dites qu'il y a de la souffrance, quand vous dites qu'il y a de l'incompréhension dans les entreprises aujourd'hui par rapport aux règles du jeu. Ça, c'est vrai, c'est clair. Et je pense que la première réponse à cela, c'est de libérer la parole. C'est ce que nous avons fait, nous, chez France Télécom, depuis 2 mois. Je crois qu'on s'est engagé dans cette entreprise comme jamais aucune entreprise de notre taille ne l'avait fait avant en France. Et ça a commencé par libérer la parole.
Alors, Stéphane, on a envoyé un questionnaire. Cette libération de la parole, elle a eu lieu, ce questionnaire,
oui.
A eu un grand succès.
80 000 personnes y ont répondu.
Donc 80% des salariés.
80% de nos salariés, grosso modo. Absolument.
Mais alors ça, c'est le questionnaire. Cette parole libérée,
on n'a pas fait que ça.
C'est important. Alors, qu'est-ce qui se passe après ?
On a fait ça, on aura les résultats de ce travail qui est inédit à cette ampleur dans quelques jours. On a organisé également partout en France des réunions qui associent à la fois tous les collaborateurs de l'entreprise et leurs managers. 60 000 personnes ont participé à ces réunions, on a appelé ça les assises de la refondation et les gens, si vous me passez l'expression, vraiment se sont lâchés dans ces réunions.
Mais vous n'avez pas déjà là une mesure phare à nous annoncer, une décision qui a déjà été prise pour que cela n'arrive plus ?
La première chose, c'est que nous avons estimé qu'il fallait que cette entreprise se pose et récupère par rapport à la convulsion qu'elle a connue, aux convulsions qu'elle a connues d'ailleurs ces dernières années. Donc la première chose que nous avons dit, c'est plus de mutations non souhaitées par nos salariés, plus de restructuration, pas de fermeture de site, pas de réorganisation traumatisante.
C'est suspendu,
ça sera suspendu le temps qu'il faut pour retrouver dans cette entreprise, en accord avec les partenaires sociaux, le climat de sérénité qu'il faut que nous ayons pour pouvoir fonctionner aussi dans une logique de performance.
Il reste encore un petit peu de temps. J'aimerais savoir, Paul Moreira, de ce que vous pensez là, parce qu'effectivement, cette crise incroyable que traverse France Télécom, des esquisses de solutions semblent proposer. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et le mot de la fin à Valérie Pécresse sur ce thème.
Alors, je Je pense que ce qui a été fait là, enfin moi j'ai beaucoup travaillé sur Renault en l'occurrence, moins sur France Télécom.
C'est la même société qui était
à l'œuvre. Oui, c'est Technologia. C'est très intéressant à Renault parce que il y a effectivement, grâce à ce rapport Technologia, il y a 50% des salariés qui ont pu s'exprimer de manière anonyme. C'est-à-dire que la barrière de la peur a pu être rompue. Les dirigeants de Renault ont appris, assez surpris et assez choqués parfois, ce que leurs salariés pensaient de l'entreprise, pensaient du management, l'état de mal-être qui traversait dans leur entreprise. Je pense que ça va les aider effectivement à refonder un petit peu le dialogue social. Mais il y a des choses qu'il faut on est dans une société dite libérale. On peut se demander à un moment donné, enfin, je crois que vous en avez conscience parce que j'ai vu dans une de vos interviews que vous faisiez référence, mais le fait que des salariés soient fliqués en permanence par des outils électroniques, le fait qu'ils n'aient plus d'autonomie sur leur travail parce que le travail est contrôlé à distance par une hiérarchie qui vous donne des objectifs, franchement, c'est le même schéma que les pays de l'Est, quoi. C'est à un moment donné, on dit il y a un plan quinquennal et vous appliquez, sauf qu'à la place, on utilise Internet, intranet et les mails. Il faut quand même, enfin, je veux dire, c'est une véritable révolution dans le fonctionnement de l'entreprise à laquelle il faut se livrer. Ça ne suffit pas, les petites mesures.
Est-ce que vous appelez, vous aussi, à cette révolution dans le monde du travail en France?
Je crois que humaniser la gestion des ressources humaines, clairement, il y a toute une génération de dirigeants et de cadres qui n'ont pas été formés pour ça. Et je crois que notre devoir aujourd'hui, c'est de dire on va les former pour ça, y compris même les ministres en place. Je pense qu'on n'a pas été non plus formés pour gérer l'humain. Alors on l'apprend sur le tas, appris sur le tas. Mais je crois que malheureusement, il y a quand même aussi des choses, des apprentissages à faire qui pourraient nous faciliter beaucoup la vie. Parce que le problème, c'est que la vie d'une entreprise ou la vie d'une administration, c'est quand même accompagner le changement en permanence. Je veux dire, on peut pas, certes, à France Télécom, ils ont décidé de faire une pause, et à mon avis, ils ont certainement bien fait de le faire. Mais en même temps, notre devoir à nous, c'est d'accompagner le changement. Dans les universités, on accompagne le changement, dans l'administration, on accompagne le changement. Et donc, il faut le faire en personnalisant les réponses au maximum. C'est pas simple, ça nous demande vraiment beaucoup d'énergie supplémentaire et de compétences supplémentaires, mais je crois qu'il faut le faire, c'est un impératif.
Là, on parle du monde du travail qui est parfois extrêmement violent. Il y a un autre monde auquel je pense qu'il peut l'être, c'est le vôtre. Valérie Pécresse, la politique, je me rappelle que vous avez signé un livre en 2007, être une femme politique, c'est pas si facile, c'est pas hyper stressant, hyper violent, le milieu politique, là aussi, il n'y a peut-être
pas de gestion des ressources humaines, mais les gens qui choisissent ce métier-là sont en général psychologiquement assez solides, quoique, quelquefois, vous savez, une défaite, ça peut provoquer des ravages psychologiques chez les gens.
Stéphane Richard, un dernier mot, quand est-ce que vous prenez vos futures fonctions, celles de numéro 1 de France Télécom, est-ce que vous le savez déjà?
Écoutez, le calendrier qui est prévu, c'est que je sois proposé aux actionnaires de l'entreprise pour cette responsabilité à la fin du mandat de Didier Lombard.
C'est-à-dire
au printemps 2011.
Ce ne sera pas plus tôt.
Écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai largement de quoi m'occuper. Chacun l'a compris aujourd'hui, et je suis passionné par ce que je fais, parce que je pense que, on sort d'une crise, je l'espère, sortir d'une crise terrible pour cette entreprise. En même temps, c'est un challenge formidable que justement de pouvoir inventer un peu, essayer d'inventer un peu une nouvelle entreprise, une entreprise du troisième type, qui essaye justement de prendre en considération tout ce qui s'est passé pour écrire un peu un nouveau contrat social. C'est ça notre défi.
C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci. Et ce sera le mot de la fin. Merci Stéphane Richard, merci Paul Moreira de nous avoir rejoints ce soir. Merci Valérie Pécresse de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission et d'avoir participé à ces trois débats passionnants. C'est la Saint-Nicolas aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez souhaité au président de la République.
Ah, je l'ignorais.
Alors, sortant de l'émission, un petit SMS rapidement. La semaine prochaine, à votre place, la députée européenne Rachida Dati. Bonne fin de soirée à tous, bonne semaine et surtout, prenez soin de vous.